Il est 13h sur France Inter. Et Anaïs Feuga nous présente le journal. Bonjour.
Bonjour à tous. Des troncs de chaniège calcinés, des pieds de vigne brûlés, le paysage de désolation se révèle peu à peu dans le Var. Après le passage de l'incendie, 5500 hectares ont brûlé, 19 personnes intoxiquées. Des campeurs et des habitants évacués, nous serons à la garde freinée dès le début de ce journal. Elle demande à la communauté internationale d'ouvrir ses portes aux réfugiés afghans. La prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai, elle-même victime des talibans au Pakistan, vous l'entendrez. Alors que les propos hier soir du chef de l'État français sur les flux migratoires irréguliers en provenance d'Afghanistan indignent la gauche. À Paris, les premiers évacués de Kaboul sont attendus dans l'après-midi. Sur place, les talibans contrôlent les rues de la capitale. Qui sont les hommes clés du mouvement dans ce journal? Le portrait de l'un d'entre eux, le Mollah Baradar. Dans ce journal aussi, l'allocation de rentrée scolaire versée à partir d'aujourd'hui à 3 millions de familles modestes. Anne Hidalgo qui pourrait se déclarer plus tôt que prévu à la présidentielle. Et puis la reprise des croisières fluviales sur la Seine à Rouen.
France Inter.
La carte postale assombrie par le panache noir de la fumée. Le violent feu de forêt qui s'est déclenché hier dans le Var dévale les pentes de l'ARPI de Saint-Tropez. La moitié de la réserve naturelle de la Plaine des Maures a été dévastée. Plusieurs campings et les habitants de la zone ont été évacués par précaution. Hier soir, ils ont passé la nuit dans des gymnases. David Ossiou à la garde freinée. La route d'accès est toujours fermée et impossible pour les habitants de rentrer chez eux.
Oui, et il y a des habitants qui en tremblent encore aujourd'hui, même s'ils ont déjà connu le feu dans ce secteur en 2003, comme Hortense, une néerlandaise installée à la garde freinée.
Le vent, c'était tellement violente que ça fait peur.
Oui, j'ai vu les flammes.
Impressionnante, oui. Ce matin, c'est la première chose que je cherchais, les infos si ma maison était encore là, si c'était pas brûlé. Apparemment, c'est encore OK. Donc, on a eu de la chance.
De la chance, certains en ont eu beaucoup moins. Cette habitante raconte aussi que plusieurs de ses proches ont vu la maison touchée par l'incendie. Le feu hier soir était très virulent, comme le confirme cette autre riveraine de la garde freinée.
J'habite dans le village. J'ai vu le rougeoiement des flammes au-dessus de la crête et ça s'est arrêté, ça n'est pas descendu dans le village. Ça a été détourné par le vent, mais c'était très près et très chaud. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le village. Je pense, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui est parti, puisqu'ils ont évacué une partie du village quand même.
À quelques kilomètres au-dessus de l'entrée du village, les gendarmes bloquent la route. N'essayez pas d'entrer, disent-ils, c'est pour votre sécurité.
Bonjour Nina Valette.
Bonjour.
Vous êtes en direct avec nous depuis la Maule, au sud de Cogolin. Vitesse de propagation du feu jamais vue, disent les pompiers. 4 km/h contre 1 km par heure d'habitude. Alors, quelle est la situation à la mi-journée?
C'est exactement ça. Écoutez, ce matin, je vous annonçais 3500 hectares partis en fumée. Eh bien, à 13h, on approche des 6000. C'est énorme. Pour être clair, vous le disiez, la moitié de la réserve naturelle de la Plaine des Maures a brûlé. Et ce, malgré l'appui terrestre et aérien. 900 pompiers sont mobilisés en tout de Dash. 4 canadaires pour au total 70 largages d'eau depuis ce matin. Sauf que ça ne semble pas suffire. Loin de là, on parle de reprise de feu dans le golfe de Saint-Tropez. Et c'est cohérent, puisque dans ce secteur où je suis, la circulation est très perturbée. Les 120 gendarmes venus en renfort bloquent la route, 7 routes au total, pour éviter que des automobilistes ne se retrouvent pris au piège des flammes entre Bormes-les-Mimosas et Saint-Tropez du coup. Et de là où je suis, moi je ne suis pas très loin de la Mole et je dois vous avouer que je commence à voir de la fumée noire jaillir au-dessus des arbres. Un feu qui a causé 18 intoxications dans le Var pour le moment. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucun blessé grave à déplorer.
Merci Nina Valette, en direct depuis le Var. Le chef de l'État actuellement au fort de Brégançon dans le Var se rend tout à l'heure sur le lieu de l'incendie. Ils sont attendus cet après-midi à Roissy, les 45 premiers Français et certains Afghans évacués de Kaboul hier, accueillis d'abord aux Émirats Arabes Unis. Première pierre d'un pont aérien qui se met en place, opération Apagan. Les précisions du chef d'état-major des armées, le général Thierry Burkhard.
C'est un peu plus d'une quarantaine de personnes qui ont été évacuées, des ressortissants français mais aussi des ressortissants européens. C'est quelque chose qui se fait en coordination. La France, bien évidemment, avait anticipé, en tout cas pris des mesures de précaution. Et il y a déjà un gros flux qui avait été évacué au printemps. Après, il y a bien évidemment la situation des Afghans, en particulier les Afghans qui avaient travaillé avec l'armée française et avec les services français en Afghanistan, sur lesquels on a effectivement un devoir de leur porter assistance. Et là, on est plutôt de l'ordre de quelques centaines, donc c'est un peu plus compliqué.
Quelques centaines de personnes à évacuer concernant la France, mais combien d'Afghans vont-ils choisir la route de l'exil depuis la prise du pouvoir par les talibans il y a 2 jours? La pakistanaise Malala Yousafzai lance un appel à la communauté internationale, prix Nobel de la paix en 2014 pour son combat pour l'éducation et en particulier pour les jeunes filles. Elle a survécu elle-même à une attaque des talibans pakistanais. Elle demande sur la BBC l'ouverture des frontières.
Les gens s'échappent. Ils essayent de trouver un moyen de se mettre en sécurité. Quand vous voyez cela, vous réalisez que ce qui se passe en ce moment, c'est une crise humanitaire urgente. On vit dans un monde où l'on parle d'avancée, d'égalité, d'égalité des sexes. On ne peut pas voir un pays revenir des décennies, des siècles en arrière. Je pense que maintenant, chaque pays a un rôle à jouer et une responsabilité. Les États doivent ouvrir leurs frontières aux réfugiés afghans, aux déplacés, et ils doivent prendre tout de suite des mesures audacieuses pour défendre les droits de l'homme. Ce n'est pas seulement important pour la paix en Afghanistan, mais aussi pour la paix en général.
Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix hier soir sur la BBC. L'exode des Afghans, l'ouverture des frontières, des défis qui s'imposent d'ores et déjà à l'Europe. Une réunion des ministres des Affaires étrangères est organisée cet après-midi. En France, les propos du chef de l'État lors de son intervention hier soir font réagir. Nous devons anticiper et nous protéger contre les flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature. Voilà ce que disait Emmanuel Macron hier soir. Bonjour Maxence Lambrecht.
Bonjour.
Des propos réaffirmés cette nuit sur Twitter et ce matin, la gauche réagit.
Oui, l'Élysée a bien senti qu'il fallait republier tout le passage car beaucoup n'ont retenu que les premiers mots, flux migratoires irréguliers. Mais ça ne change rien pour l'ancien marcheur et député Aurélien Taché.
Quand on voit des hommes et des femmes fuir en s'accrochant aux ailes d'avion, en parler comme des stocks de marchandises, hein, parce que les flux, pour moi, ça s'adresse aux marchandises, pas aux personnes humaines, c'est problématique.
Insoumis, socialistes, communistes l'accusent d'inhumanité, de calcul politicien. Même l'ONG Médecins du Monde vient de s'insurger contre ses propos. Pourquoi a-t-il voulu paraître aussi ferme ?
Il a la tête à un seul dossier, qui est celui de l'élection présidentielle de 2022. Et donc, il a pensé que c'était l'occasion de commencer à instiller l'idée qu'il serait aussi dur que la droite dure sur la politique migratoire.
La Macronie s'attendait à cette polémique. Et tant mieux si les oppositions tombent dans la caricature, se dit le patron du groupe Modem à l'Assemblée, Patrick Mignola.
Vous avez en France un certain nombre de gens qui expliquent qu'il faudrait accueillir tout le monde, ce qui n'est pas à la hauteur de nos capacités, ou qu'il faudrait accueillir personne. Ce qui n'est pas à la hauteur de nos valeurs.
Toujours chercher le en même temps et se montrer mobilisé, les marcheurs aiment rappeler que beaucoup de candidats à la présidentielle restent très discrets sur ce sujet cet été.
L'ONU appelle ce matin les pays à interdire les renvois forcés de ressortissants afghans vers leur pays, y compris les demandeurs d'asile dont les demandes ont été rejetées. En Allemagne, la question s'impose aussi dans la campagne électorale, d'autant plus que les opérations d'évacuation, David Philippot, sont complexes et ne se passent pas forcément comme prévu.
7 passagers. L'histoire retiendra que seulement 5 Allemands, 1 Hollandais et 1 Afghan ont pris le premier avion à la cocarde noire et blanche vers la liberté. Il y avait beaucoup de candidats au départ, mais c'était les seuls dont les noms figuraient sur la liste établie par l'ambassade. L'Allemagne envisage d'exfiltrer à terme 10 000 Afghans, mais en dehors de ces gens persécutés, le gouvernement n'accueillera pas un réfugié de plus. C'est répété en boucle par le candidat CDU qui brigue la succession d'Angela Merkel. Armin Laschet.
2015 ne doit pas se répéter. Nous ne devons pas envoyer le signal que l'Allemagne peut maintenant recevoir tous les gens en détresse.
En clair, et contrairement à l'exode venu de Syrie, il s'agit cette fois de donner très vite beaucoup d'argent aux pays limitrophes de l'Afghanistan afin d'organiser l'accueil des exilés. Selon le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer, jusqu'à 5 millions de personnes pourraient fuir le pays. En pleine campagne électorale, le spectre d'une immigration incontrôlée, c'est une aubaine pour le parti d'extrême droite AFD. Berlin, David Philippot pour France Inter.
Les Allemands très critiques aussi envers l'Alliance Atlantique, elle protectrice de l'Allemagne depuis 1949. Les ambassadeurs des pays de l'OTAN tiennent une réunion d'urgence dans la journée. Chez les Afghans qui sont déjà en France, on suit les derniers développements avec inquiétude. Il est difficile de joindre ses proches restés au pays. Mathilde Dehimi a rencontré des réfugiés à Paris depuis 2016 et qui se sont retrouvés hier soir pour se soutenir.
Ils se sont retrouvés chez une amie iranienne pour se changer les idées, mais les regards sont tristes et les traits tirés.
Personne ne répond. Il y a presque 3 jours, on ne sait pas que ma famille, actuellement, elle est dans quelle situation.
Aucune nouvelle de la ville d'Herat, dont est originaire Amari, 30 ans.
J'ai une petite sœur, j'ai peur. Les talibans, ils le ramènent. Ils se marient forcés. Personne ne peut pas l'empêcher.
Les femmes sont de nouveau refoulées de l'université, raconte son ami Ali, 27 ans. Il est amputé d'une jambe. En 2012, des talibans font exploser sa voiture car il travaille pour une ONG. Il craint désormais des représailles.
Jusqu'à maintenant, il n'avait pas tout le pouvoir. Il n'avait pas encore jugé les gens qui travaillent pour le gouvernement, les organisations internationales. C'est peut-être après 1 mois, 2 mois. J'ai peur de ma famille.
Tout le monde en danger.
Tout le monde en danger, reprend Ali, partout dans le monde, insiste-t-il, car les talibans ont permis aux groupes terroristes de prospérer.
Les talibans, avec les Al-Qaïda, pour ça qu'ils sont dangereux pour tout le monde.
Ali a reçu plusieurs appels à l'aide, un médecin, des amis, qui demandent aujourd'hui comment sortir de leur pays.
Aujourd'hui, les talibans ont annoncé ce matin une amnistie générale pour tous les fonctionnaires. Ce matin, à Kaboul, les magasins ont rouvert. Quelques personnes apeurées s'aventurent dans la rue. La police fait la circulation pendant que les talibans tiennent des postes de contrôle. Les talibans n'ont pas changé, selon les observateurs sur place, qui dénoncent aussi la part de responsabilité des Américains qui ont négocié avec eux. Leur interlocuteur, le Mollah Baradar, le taliban le plus en vue depuis 2 ans. Qui est cet homme, Eric Bigala?
Formellement, il a toujours été une sorte de numéro 2 du mouvement. Co-fondateur des talibans avec le Mollah Omar, c'est lui qui pilote la petite moto qui permettra d'exfiltrer le chef incontesté des fondamentalistes afghans lors de l'offensive américaine en 2001. À partir de cette époque, c'est lui qui dirige le mouvement au jour le jour. Caché à Quetta, au Pakistan, il coordonne enfin tacticien les mouvements militaires des insurgés. C'est également lui qui tient les cordons de la bourse du mouvement. C'est lui encore qui est à l'origine des quelques tentatives de négociation talibane avec le gouvernement afghan de l'époque, celui d'Hamid Karzai. C'est peut-être d'ailleurs ce qui lui vaut, début 2010, son arrestation par les Pakistanais. Ce sont en tout cas les États-Unis de Donald Trump qui obtiennent en 2018 sa libération. Depuis, le Mollah Baradar fait office de représentant public de l'émirat islamique d'Afghanistan. C'est lui qui a négocié et signé les accords scellant le retrait américain du pays en février 2020. Dans le nouvel appareil qui s'apprête à prendre le contrôle administratif du pays, le Mollah Baradar devrait occuper une place d'envergure au sein de l'exécutif, l'équivalent d'un premier ministre ou au moins d'un ministre des Affaires étrangères.
Enfin, la Turquie indique ce matin avoir des discussions avec les talibans et d'y accueillir de manière positive les messages envoyés jusqu'à présent.
France Inter, le journal de 13h. Anaïs Feugat.
3 millions de familles modestes l'attendent tous les ans. L'allocation de rentrée scolaire est versée à partir d'aujourd'hui. Famille de France publie son enquête annuelle. Le coût de la rentrée scolaire, elle, augmente cette année de 1%. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
Vous avez consulté cette enquête et pour les associations, eh bien cette allocation reste toujours utile.
Oui, pour financer un panier moyen à 199,64 € pour l'entrée en 6e, 100 € de fourniture scolaire, 51 € de papeterie et 48 € d'articles de sport. Des dépenses de rentrée qui pèsent encore lourdement cette année sur le budget des familles les plus fragiles, rappelle l'association qui a fait et refait ses comptes en compilant des dizaines d'articles dans différents magasins à travers la France et sur Internet. 200 € donc au minimum, auquel il faut ajouter les frais d'assurance, de cantine, de transport et d'activités extrascolaires. Une allocation très loin d'ailleurs de couvrir l'ensemble des achats pour les filières professionnelles comme les CAP coiffure où le coût du matériel de rentrée peut atteindre 600 €, d'où la nécessité peut-être de mieux adapter, de moduler un peu cette allocation selon les âges et les filières, notre famille de France, mais surtout pas d'en changer les fondamentaux. Longuement interrogée par la Cour des comptes en mars dernier sur l'utilité de ce versement et d'éventuels abus, le tissu associatif rappelle unanimement la nécessité de cette aide et la pertinence de ne pas flécher ces sommes sur des produits en particulier, quelques dizaines d'euros économisés cette année permettant de financer par exemple l'achat de vêtements ou d'un bureau l'année prochaine.
Merci Claire Chaudière. La rentrée politique cette fois s'accélère un peu en ces derniers jours de vacances. S'il y a déjà pléthore de candidats à droite pour la prochaine présidentielle, eh bien les prétendants se déclarent aussi de l'autre côté de l'échiquier. On attend Arnaud Montebourg le 4 septembre. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Ce qui semble obliger la maire de Paris à se presser un peu.
Oui, alors le mot accélération dans l'entourage de la maire de Paris, on n'aime pas trop. Anne Hidalgo, à l'écoute Dupéry, l'œil sur les mouvements des plaques tectoniques à gauche et chez les écologistes, elle réfléchit. Alors oui, tous l'admettent, il ne faut pas faire durer trop le secret de Polichinelle. Mais il faut trouver le bon tempo. C'est plus proche du conseil de laisser passer la rentrée, d'autant que la crise sanitaire pourrait être encore très vive. En tant que maire de Paris, on ne lui pardonnera pas de ne pas être entièrement mobilisée. Alors que propose le calendrier ? Les 27 et 28 août, elle sera en majesté à Blois, à l'université du PS. Son premier secrétaire Olivier Faure pousse à ce qu'elle abrège le teasing présidentiel, mais c'est trop tôt. Le 15 septembre paraît son livre « Une femme française ». Emmanuel Grégoire, son premier adjoint, est catégorique. Elle ne se déclarera pas à ce moment-là. En revanche, avance l'un de ses lieutenants, il y a une fenêtre de tir pour se caler intelligemment entre le congrès du PS, prévu les 18 et 19 septembre, et la fin de la primaire des Verts, le 28 septembre, 10 jours donc pour faire ses jeux.
Laurence Perron, service politique de France Inter. Un centre de vaccination vandalisé en Haute-Garonne la nuit dernière. Les portes du centre de Saint-Aurin ont été forcées. Les ordinateurs renversés, 500 doses de vaccins volées, une enquête est ouverte. Les 173 enfants de la colonie de vacances de Belle-Île-en-Mer, touchés par un foyer épidémique de Covid, ont pris comme prévu ce matin le bateau pour rejoindre le continent. À l'étranger, la Nouvelle-Zélande se confine 3 jours. L'archipel, qui n'avait connu aucune contamination au coronavirus depuis 6 mois, vient d'en enregistrer une. La Nouvelle-Zélande ne veut pas prendre de risque face au variant Delta. En Australie, les autorités sont très inquiètes. L'épidémie aurait touché des communautés aborigènes particulièrement vulnérables. Au Royaume-Uni, à l'inverse, le pays assouplit encore les restrictions. Depuis hier, les cas contacts qui sont doublement vaccinés ne sont plus contraints à l'isolement. Cette mesure avait généré des difficultés économiques. Le reportage à Londres de Laure Van Ruimbeek.
Derrière son ordinateur, Charlie, manager du restaurant Brown, s'occupe du planning de la journée. Après un mois de juillet compliqué, marqué par l'absence de certains de ses salariés déclarés cas contact, il semble soulagé.
On espère pouvoir revenir à nos heures normales de fonctionnement. Pendant quelques semaines, on a dû fermer quelques services de déjeuner, simplement parce qu'on n'avait pas une équipe complète pour couvrir tous les services. Mais oui, on va de l'avant et on prévoit de revenir à toutes nos heures comme d'habitude.
Au mois de juillet, plus d'1 million de personnes en Angleterre ont été contraintes de s'isoler, ce qui a perturbé de nombreux secteurs. Dans le quartier très animé de Shoreditch, un patron de bar d'une quarantaine de salariés explique qu'il n'est pas toujours évident de s'isoler.
C'est pas comme en France ici, bon, on travaille avec beaucoup de jeunes, donc s'ils travaillent pas, ils ont pas d'argent, pas de revenus. Et Londres, c'est assez cher, donc pour le loyer, ça, c'est un peu compliqué. On fait tous les jours des tests, donc on a une centaine de rapides tests dans l'office. Et donc après, ça nous permet aussi de déceler si on a des cas, là, comme là aujourd'hui. On a eu quelqu'un qui était positif avant d'arriver. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il était dans l'office, il s'est fait tester et était positif. Donc il est rentré chez lui directement.
Environ 30 000 personnes sont contaminées chaque jour au Royaume-Uni, mais les 3/4 des adultes sont doublement vaccinés. Alors l'objectif du gouvernement, c'est de relancer l'économie.
Et là aussi, l'économie reprend et renoue avec le monde d'avant. Les bateaux de croisière reviennent sur la Seine, à Rouen. Des touristes allemands, suisses et américains de retour cet été en Normandie. Reprise donc, même timide, des excursions fluviales. Le reportage de Bradley de Souza.
Ils ont les mains remplies de sacs.
On s'est amusé sur le bateau, on a fait du shopping en ville, on a acheté des bonbons, du vin, des pâtisseries, des éclairs.
Jacques et sa famille arrivent tout droit de Philadelphie aux États-Unis et ils sont ravis de pouvoir voyager de nouveau.
C'est génial, ça nous fait du bien de voyager de nouveau et qui plus est ici dans cette belle ville, ces belles églises.
C'est joli, c'est chaleureux, on a bien dépensé, bien mangé aussi.
On pourrait quand même avoir un peu plus de soleil.
Des touristes américains en manque de soleil, mais bel et bien de retour, même s'ils ne sont pas si nombreux que ça.
Sur une capacité de 126 passagers, on navigue avec 40 passagers.
Sébastien Imbert a 46 ans, c'est lui le capitaine du SS Joie de Vivre.
Une reprise assez calme, due au taux de contamination encore élevé en France. Donc là, pour l'instant, on est ouvert c'est du marketing en fait, pour faire voir qu'on est ouvert. Je pense pas que ce soit rentable. Ça change, après 1 an et demi d'arrêt. De renaviguer un petit peu, ça fait plaisir.
Ravi de pouvoir transporter de nouveau des touristes cet été de transition, comme il dit, en attendant l'année prochaine et un agenda un peu plus rempli.
Voilà, on espère pour Rouen qui a accueilli 48 navires cette année contre plus de 700 en 2019. Un coup d'œil sur le temps.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Un temps contrasté aujourd'hui.
Oui, sur une très grande partie du pays, on a vraiment un ciel bien nuageux. Alors surtout près des frontières du Nord où on a même quelques averses. On trouve quand même quelques éclaircies, de temps en temps un petit peu plus belles sur le Sud-Ouest, sur le Sud du Centre et de la Bourgogne, du côté de la Franche-Comté, de l'Alsace ou alors sur l'Ouest de la Bretagne et sur la Basse-Normandie. Le soleil, il finit quand même par s'imposer sur l'Auvergne-Rhône-Alpes et puis il brille toujours en Méditerranée. Mais c'est au prix du vent, jusqu'à 70 à 90 km à l'heure. Soyez vigilants d'ailleurs, le risque de feux de forêt est très important sur le Sud-Est. Côté thermomètre, c'est souvent frais, sauf en Méditerranée. Comptez 19 degrés à Rouen, 22 à Paris, Strasbourg et Angers, 24 à Bordeaux, 25 à Lyon. Il fera 29 degrés à Nice, 32 à Montpellier, à Toulon, à Bastia et on ira même jusqu'à 34 encore dans l'intérieur du Var.
Merci Élodie Calac, Météo France.